Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi en tant qu'organisateur de ces rencontres de la Plaine Monceau de vous dire quelques mots de notre feuille de route de ce matin et des raisons pour lesquelles nous nous sommes réunis, des genèses de ces rencontres et également leurs ambitions. Tout d'abord, il m'a été demandé d'excuser l'absence de M. Bruno Le Maire, que je remercie pour sa fidélité et son parrainage et son intérêt pour nos travaux. Après une première édition en visioconférence, mais réussie, pendant la crise sanitaire, je suis heureux qu'enfin ces rencontres se tiennent dans leur format originel, tel que nous les avions imaginés. Alors pourquoi ces rencontres et comment nous est venue cette idée bizarre de revenir sur les lieux de la création de la banque moderne pour réfléchir à son avenir ? Très actif dans le secteur du numérique, Aromact s'implique depuis plusieurs années dans la transformation du secteur des services financiers, en particulier pour organiser chaque année les Assises des technologies financières, dont l'édition 2023 se déroulera à la Maison de la Chimie le 16 novembre prochain. C'est ainsi, à la faveur des échanges et des travaux que nous menons avec les acteurs de cette transformation, et y compris à titre personnel au sein de la Fondation Concorde, puisque j'anime avec Christian de Boissieu la commission banque et services financiers de la Fondation Concorde, nous avons pu mesurer la profondeur de la mutation que vivait ce secteur. Une mutation qui ne trouve d'ailleurs pas et de loin toutes ses causes dans l'avènement des technologies numériques et de l'Internet, ni d'ailleurs dans la crise sanitaire, mais dans les grandes évolutions sociétales qui traversent le monde, et en particulier l'émergence de ce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler une nouvelle conscience écologique. Mais l'idée de créer un lieu de rencontre et de débat pour contribuer à imaginer et participer à la construction d'une banque de la banque de demain n'est pas née de ce seul constat. Il leur a fallu le hasard, d'autres rencontres, notamment avec des historiens, pour découvrir que la banque moderne est née, elle aussi dans un contexte de grand chambardement, il y a un peu plus de 150 ans au cœur d'un faubourg parisien huppé de l'époque, la Plaine Monceau. C'est effectivement dans la seconde moitié du XIXe siècle que la France moderne, tournée vers le progrès promis par le siècle des Lumières, est née. Cette France, c'est celle de la sidérurgie, des mines et du chemin de fer, voulue par Napoléon III et soutenue par des financiers et mécènes audacieux. C'est ainsi que les Gaillard, Camondo, Rothschild, Lazare, Lafitte ou Perrer se sont établis à la Plaine Monceau, lieu de rencontre entre les mondes de l'industrie, de la finance, sans oublier celui de la culture, qui ont permis et stimulé la transformation industrielle de la France, le déploiement de ses grandes infrastructures et sa rénovation urbaine. Il était alors devenu évident que la transformation que nous vivons actuellement était au moins aussi importante que celle qu'a connue le XIXe siècle et que, convaincus que les lieux qui ont marqué l'histoire ont un sens et peut-être même un pouvoir, nous avons eu l'idée avec Finance Innovation et le CBF de créer les rencontres de la Plaine Monceau, un cycle d'événements réunissant des représentants de l'écosystème bancaire et financier, français et international, pour débattre des grands enjeux et redonner ainsi à la France, et plus particulièrement à la place de Paris, le rôle de précurseur qu'elle a toujours joué dans l'histoire de la banque. Rôle qui ne se dément pas au fil des ans, les Échos titraient ce matin, ça ne devait sûrement pas échapper, Brexit, Paris gagnant, pour annoncer que Paris est devenue la nouvelle place financière préférée des grandes banques américaines en Europe. Nous avons choisi pour thème de cette deuxième édition « Réinventer la banque quand le capitalisme se réinvente ». S'il est certain que la banque se réinvente, cela l'est beaucoup moins en ce qui concerne le capitalisme. Tout du moins dans ses fondamentaux, car, et de toute évidence, le capitalisme change de visage tant du fait d'évolutions technologiques et des usages que de la mondialisation, mais aussi sous l'influence d'un projet politique impacté par l'urgence de la transition écologique. C'est dans ce contexte que se sont imposés de nouveaux acteurs, les big tech, dont la taille, les performances et la surface financière en font de véritables états numériques, qui viennent questionner l'avenir de la banque en tant que partenaire d'une société démocratique, de son développement économique et de sa stabilité financière. Face à cette menace, la France a de nombreux atouts, faut-il ici le rappeler. L'écosystème bancaire français, fort de 400 banques, réunit tant des acteurs reconnus internationalement dans les domaines de la régulation, de la normalisation et du contrôle prudentiel, des académiques et des entreprises innovantes de haute technologie dans les domaines des paiements, de la blockchain, de l'intelligence artificielle ou encore de la cybersécurité. Un écosystème qui est devenu de toute évidence un puissant facteur d'attractivité. Depuis sa création, la banque à la française, en traversant de nombreuses crises comme celle de 1929, deux guerres mondiales et plus récemment la crise financière de 2008 et sanitaire de 2020, a non seulement apporté la preuve de sa résilience, mais encore a toujours su tirer les enseignements de ces crises pour innover, améliorer ses performances, ses processus et ses services. En cette fin de journée, nous serons invités à débattre avec nos prestigieux invités de quatre grandes questions qui se conjuguent et sont autant d'enjeux et de défis pour le secteur des services financiers. La finance peut-elle être le moteur de la transition écologique? Verra-t-on se réinventer les rapports entre la banque et l'État? Le cloud et les paiements seront-ils le cheval de Troie d'acteurs hégémoniques désireux de vassaliser nos économies européennes? À quoi ressemblera la banque du futur et sera-t-elle toujours au service de l'économie réelle, celle qui fait vivre notre pays et ses territoires? Avant d'engager nos débats, je voudrais ajouter une petite information pratique. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons une équipe de tournage ce soir, chargée d'immortaliser cette soirée. Si vous ne souhaitez pas figurer sur les vidéos, merci d'en informer maintenant l'équipe organisatrice. Enfin, et pour finir cet exposé liminaire, quelques mots sur le lieu où nous sommes réunis. Je vous disais tout à l'heure que les lieux ont peut-être un pouvoir. Personnellement, j'en ai la conviction. Et pourquoi nous sommes ici ce soir, dans la maison des frères Émile et Isaac Pereire, des hommes d'affaires parmi les plus emblématiques de la fin du XIXe siècle, qui, à la tête d'un véritable empire financier, immobilier et industriel, ont été les acteurs de l'essor de l'économie française. Rachetée en 1975 par Simone Del Duca pour établir sa fondation, elle est aujourd'hui la propriété de l'Institut France que nous remercions d'avoir accepté d'accueillir ces rencontres. Le hasard, peut-être la Providence, a voulu que ces deuxièmes rencontres de la plaine Monceau, qui ont l'ambition de réinventer la banque, se tiennent au moment précis où la question de cette réinvention est posée à notre pays et au monde. Un de ces moments charnières dans l'histoire humaine économique, une occasion de penser la banque du futur avec ceux qui la font aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous remercie et laisse sans plus attendre la parole à Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l'Institut de l'économie circulaire, et à nos deux premiers invités, Geneviève Ferrand-Creuset et Arnaud Debresson. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents et passionnants travaux.
Merci infiniment, Jacques, pour cette introduction. Alors, je pense qu'une partie d'entre vous le connaissez. La semaine dernière, on a perdu Valérie, Lucas Léclin, et donc on me proposait que Geneviève puisse lui rendre hommage. On parle de finance responsable, et c'était difficile de ne pas l'évoquer. Donc, je vous propose qu'on prenne ce petit temps d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet.
Mais... merci beaucoup, Emmanuel. Oui, donc. Très rapidement, puisque Valérie Lucas Leclin, qui était un analyste ESG, un des plus brillants, quand je dis un des plus brillants de sa génération, c'est que je l'ai connu tout petit. Je l'ai embauché quand j'avais créé ma propre agence de notation extra-financière en 97, je l'ai embauché en 98. Et il a été vraiment un maillon essentiel de la promotion de l'investissement socialement responsable. Il a été un des grands architectes de la finance durable. C'est le plus talentueux de sa génération. Il a traversé différentes institutions et c'est lui aussi qui s'est expatrié. Il a travaillé à Londres et à New York. Et c'était surtout une tête chercheuse infatigable. Pour ceux qui l'ont connu, c'était le plus adorable des hommes, le plus doué et avec une grande humilité. Et donc, il est décédé le 3 juin dernier. Un hommage lui a été rendu à l'occasion de son enterrement la semaine dernière. Et pour moi particulièrement, je perds un ami proche, mais je perds aussi une personne, et nous perdons collectivement, pour ceux qui l'ont connu, une personne qui a toujours été une curiosité insatiable, curieux des autres, mais aussi curieux de ce sujet qui est l'ISR, l'ESG, la finance durable. Et vu les hommages qui lui ont été rendus, l'ampleur et la diversité des hommages, y compris outre-Manche et outre-Atlantique, je pensais que c'était important en ce lieu de lui rendre un hommage en notre nom à tous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Geneviève, c'était important de le dire. Merci aussi infiniment pour cette invitation. Alors déjà, moi ça me change, hein, parce que je suis dans le monde des ONG environnementales, donc en général, quand j'ai une assemblée face à moi, il y a beaucoup de sarouels en lin durable avec poche aux genoux, là, beaucoup de costumes, de cravates, on sent un autre univers, hein, ça y est, des dorures et tout, donc ça change, on sent que c'est un autre univers. Non, plus sérieusement, je remercie beaucoup Jacques, parce que les plus consciencieux d'entre vous, enfin ceux qui ont été lire les pages LinkedIn auront vu, je suis absolument pas une financière, en tout cas une experte des questions financières. Je ne devrais pas dire ça, parce que j'ai travaillé à Bercy, d'ailleurs. Mais enfin, bon, il se trouve que je ne suis vraiment pas une experte. Et je trouve ça vraiment intéressant qu'il puisse y avoir les rencontres de ces différents mondes. Et je ne pense pas aller trop loin en disant que le monde de la finance et le monde de la transition écologique ont quand même beaucoup progressé dans notre pays et dans beaucoup d'autres de façon parallèle, mais parallèle qui ne se croisent jamais, quoi. Donc là, je pense qu'on rentre dans un monde... non euclidien, on espère que quand même il va falloir assez rapidement que la transition écologique et la finance se croisent, que c'est déjà bien engagé, là ça se touche. Donc on sait que c'est important. Et peut-être même en termes de contexte, alors je dis ça, enfin c'est mon opinion, on verra si on la partage collectivement. On est dans un moment qui est assez historique en matière de conviction sur les enjeux de transition écologique. Moi je vois, ça fait longtemps que je travaille dessus. On était souvent sur des entrées qui étaient très environnementales, mais finalement la notion d'urgence, on la ressentait assez peu. Et puis alors autre raison, moi je travaille aussi dans un monde où on discute beaucoup avec les directeurs du développement durable, donc on faisait des super réunions entre directeurs du développement durable. Moi, je suis dans l'économie circulaire, donc sur ces sujets-là aussi. On sortait de la réunion en disant que décidément, on avait tout compris et que les autres étaient un peu nounouilles de pas progresser sur ce sujet. Mais enfin, une fois qu'on avait dit ça, on n'avait pas beaucoup plus avancé que ça. Parce que je pense que ça, vous avez pu le voir dans toutes vos structures, de façon générale, les directeurs du développement durable, c'est assez peu les chefs des directeurs de la stratégie ou des directeurs des affaires financières. Là, ce qu'on a vu, alors c'est cher payé, c'est trop cher payé, hein, mais après la crise Covid, où on s'est rendu compte, alors pour les sujets que je regarde le plus de près, que les questions de ressources, elles étaient centrales au niveau stratégique, pas seulement parce qu'il faut sauver le monde, même si en soi ça pourrait déjà être une bonne raison de rester dans le cadre des limites planétaires, mais aussi parce que sinon de toute façon nos modèles économiques ne tiennent pas. Et on a bien vu, on est passé du risque pénurique à la crise pénurique dans pas mal de domaines déjà pendant la crise Covid, et on a vu à quel point ça a basculé. Là, on le constate aussi de façon assez significative. Pareil, on est passé du risque pénurique à la crise pénurique dans le domaine de l'eau. Il y a un certain nombre de secteurs où on sait que ça arrive, et ça, on sait que gérer et investir au moment où on a des risques sur des crises à venir, c'est justement là où on peut compter sur les financiers pour savoir nous aiguiller correctement et trouver les bons investissements. Encore une fois, moi, c'est mon entrée principale, donc je vais le redire une dernière fois, parce qu'il faut sauver le monde, rester dans les limites planétaires, et de toute façon... ça ne tient pas. Enfin, voilà, on peut vivre très endetté s'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de ressources, point, quoi. Mais aussi, parce qu'encore une fois, on est sur des enjeux de souveraineté, de relocalisation. Enfin, voilà, tout le monde saute sur sa chaise en disant réindustrialisation. Là, on est vraiment au stade où il va falloir le faire. J'aime bien paraphraser De Gaulle à l'occasion. Il va falloir vraiment le faire et être sur des investissements massifs. Donc, c'est peut-être ça. Désolée pour cette introduction, peut-être un petit peu longue, mais comme après, on va rentrer dans les sujets où j'y comprends rien, je me contenterai d'écouter avec intérêt. Donc voilà, finance, moteur de la transition écologique. Alors, en discutant un peu, en arrivant, on s'est dit bon, le moteur peut-être pas, on va peut-être dire que les moteurs c'est les industriels, c'est les entreprises qui font ça, c'est les collectivités, c'est l'État qui s'engage. Par contre, essence ou batterie, enfin je sais pas, en fonction de si vous avez déjà électrifié votre parc automobile, probablement. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'essence, en tout cas, on en manque un peu, et probablement aussi, quand on parle de transition écologique, et là, ce sera après avoir fait le 17e point de ma conclusion, j'en conclurai vraiment, on est dans des sujets où les investissements, et ça, je pense qu'on va le répéter à différents niveaux, vont être massifs. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de transformation numérique. Transformation numérique, on mettait 3 HEC dans un garage, ils montaient une plateforme, ils prenaient un petit peu d'argent à la BPI. 6 mois plus tard, c'était valorisé 1 million. Ils arrivaient à faire une ou deux levées de fonds. Et avec quelques millions, potentiellement, ils étaient valorisés 1 milliard 10 ans plus tard. Bon, malheureusement, tout le monde n'a pas suivi cette trajectoire. Mais en tout cas, c'est une trajectoire possible. Là, quand on parle de transition écologique et qu'on parle de transition industrielle, quand on parle de sécurisation des approvisionnements, c'est pas les 70 000 euros de la BPI en amorçage qui vont suffire. Il va forcément falloir être sur des investissements qui sont beaucoup plus significatifs sur des modèles économiques pour certains n'avancent pas, n'existent pas encore. Donc tout ça pour dire, peut-être pas le moteur, mais sans doute l'énergie, en tout cas, qu'il faudra pour faire vivre ce moteur. Alors je propose peut-être de te passer la parole d'abord, Geneviève. Donc Geneviève Ferron-Creuset, que que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est spécialiste question énergie, environnement, pionnière de la notation extra-financière, qui intervient encore beaucoup sur ces sujets, sur l'investissement responsable, ça a été redit. Donc déjà, peut-être comment la finance responsable, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça peut agir, enfin forcément c'est son ambition, sur la transition écologique, et surtout comment... finalement, on sort peut-être d'un effet de niche, alors j'exagère un petit peu, sur la partie transition écologique, pour faire que, en matière de transition, ça soit plus la finance spécialement responsable, mais la finance tout court.
Alors, on a combien de temps ? Je suis déjà très... Parce qu'on peut y passer 15 jours, donc on ne va pas y passer 15 jours. 4 heures, donc on ramasse les copies après, alors, c'est ça. D'accord. Non, mais il ne faut pas hésiter à m'interrompre et je passerai la parole à Arnaud. Je vais planter le décor rapidement. Alors, commencer par la niche, l'effet de niche. C'était effectivement, il faut comprendre que quand on regarde dans le rétroviseur, la finance durable, alors finance responsable durable, j'y reviendrai, la sémantique est importante. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Enfin, on va dire que la finance responsable, moi, j'embrasse quelque chose de plus large, elle apparaît quand même dans notre rétroviseur il y a peu de temps, en fait. C'est quelque chose d'assez récent. Donc ça, c'est pour pouvoir dire, avant de lui tailler des croupières tout de suite, parce que ça produit pas d'effet, il faut juste savoir que... en 97, quand j'ai créé la première agence de notation extra-financière qui s'appelait Arez, mon modèle économique, ça consistait à vendre quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire des données extra-financières, à des gens qui demandaient rien, c'est-à-dire les investisseurs. Donc on voit bien que, bon, comme modèle économique, là, je vais lever de fonds $1 million, je ne serais même pas arrivée. Donc on voit bien que c'était l'intuition, parce que je revenais des États-Unis où cette finance commençait à s'organiser, notamment avec l'aide des grands fonds de pension publics, enfin la retraite par capi aux États-Unis, elle donne un sacré appel d'air aussi à ces sujets ESG. Mais on voit bien que c'est très récent et que très très rapidement il a fallu se structurer. Déjà aller voir les entreprises pour obtenir des données, organiser la collecte de données, faire en sorte que ces données soient soient de qualité, qu'elles soient traitées de façon fiable, récurrente, etc., etc. Et puis après il y a un marché qui se crée et effectivement ce marché pendant très longtemps ça a été plutôt un marché de niche. C'était un marché de niche dans lequel ça permettait de mettre sur l'étagère des produits qui avaient un supplément d'âme, pour faire court, ou un supplément d'engagement. Donc il est évident que là, l'effet de levier pour la transition écologique, on l'a attendu et on l'attend encore, parce que la finance responsable ou durable, elle était finalement plus à essayer de donner un bonus à des entreprises qui étaient plutôt transparentes en termes d'information, mais on n'allait pas vraiment challenger les organes de gouvernance pour savoir si les modèles économiques allaient pivoter ou pas en faveur d'une trajectoire à 2 degrés. Donc c'est juste que dans les années 2015, je dirais que la COP21 a marqué vraiment un tournant dans la façon dont les financiers ont été interpellés, avec une forme de dramatisation tout à fait justifiée. La question de la finance responsable moteur de la transition écologique, il est évident que ça c'est le nerf de la guerre. Enfin, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si on n'est pas capable d'investir des sommes considérables à la bonne échelle dans des entreprises qui parfois doivent pivoter ou qui doivent se réinventer, je le dis avec toute la tendresse que j'ai pour ce secteur, c'est pas les start-up de l'économie circulaire qui vont faire, qui sont à l'échelle. Donc on voit bien que pour être dans les limites planétaires, pour pouvoir faire face à des défis, pour arrêter aussi de croire à la fable de la croissance verte telle qu'on nous la présente, au sens où on va arriver au découplage, mais arriver au découplage, c'est-à-dire pouvoir avoir le même niveau de vie, le même niveau de production de produits et de services, avec une énergie décarbonée, il faut que ce soit immédiat à l'échelle de la planète, il faut que ce soit efficace. Donc on va forcément passer par une période de transition dans laquelle on revient un peu à l'époque des grandes architectures c'est un peu, et je terminerai par cette image, je dis souvent qu'on est un peu dans une économie d'après-guerre avec la finance durable et la transition écologique. C'est-à-dire, je considère que la bombe climatique, elle a déjà explosé. On sait très bien qu'on est vers un changement climatique qui va se stabiliser à 3 degrés et compte tenu de l'inertie, on sait qu'on est dans cette trajectoire-là parce qu'on a précisément tardé à investir pour décarboner des industries et notamment l'énergie. Et la question, c'est, puisqu'on sait que l'après-guerre, c'est le moment des grandes architectures sociales, environnementales, on doit refondre, c'est le moment des grandes refondations. Et qu'est-ce que on a l'Europe qui s'est mobilisée avec la CFRD, on a la taxonomie européenne, ça y est, on commence à avoir une feuille de route qui permet de flécher avec des niveaux d'exigence, des allocations ou une allocation plus précise, à supposer qu'on se mette d'accord. Mais il a fallu attendre, c'est les 3-4 dernières années. Donc je considère, et je passe la parole à Arnaud, je considère qu'on n'y est pas, que le compte n'y est pas, que compte tenu de ce qui nous reste encore à accomplir, que ce soit en France ou par secteur ou à la plaque européenne, le retard qui est pris est considérable. Mais là, il y a aussi des enjeux géopolitiques et de souveraineté qui viennent complexifier l'équation. Et ça y est, l'ESG est très décrié. C'est-à-dire qu'on est passé, c'était confidentiel, après tout le monde voulait son fonds, on va dire, et maintenant c'est très décrié. Mais pourquoi c'est très décrié? Parce qu'on va accuser les données de ne pas être fiables, de pas être suffisamment quantifiables, de ne pas pouvoir autoriser la comparabilité. Pourquoi? Parce que c'est un sujet... Ça y est, ça rentre dans le dur. Et quand ça rentre dans le dur, vous avez le Texas... vous avez vu cette carte américaine avec l'ESG, les États ESG, c'est les États démocrates, et les États anti-ESG, c'est les États républicains. Et donc, c'est la première fois qu'on voit ces sujets être au cœur d'un agenda politique aux États-Unis, parce que, ça y est, on sait que la réalité de cette transition, elle s'opère, et elle va s'opérer avec quel argent? Et c'est le cœur du problème.
Le vôtre, hein, c'est un peu logique. On passera avec un chapeau à la fin de la réunion. Mais alors peut-être petite question justement. Enfin, j'imagine que vous êtes assez en accord en ayant fondé l'institut avec d'autres, l'institut de la finance durable. Donc justement, enfin, s'il y aurait 3-4 préconisations, parce que le compte n'y est pas, bon, ça, oui. Enfin, effectivement, on voit bien qu'on est sur des trajectoires à la fois de réchauffement climatique et de consommation de nos ressources qui sont pas bonnes. Hein, enfin, ça serait quoi les 3-4 grandes préconisations peut-être faites? Par votre institut pour progresser là-dessus.
Alors d'abord, je voudrais m'associer à Geneviève là pour dire toutes nos pensées pour Valérie Lucas Leclin, que j'ai eu également l'occasion de croiser à plusieurs reprises, et dont vous avez noté d'ailleurs l'incroyable unanimité des messages d'amitié et d'estime qui lui ont été portés, malheureusement, dans cette triste circonstance. Et donc la place de Paris s'associe au travail que Valérie a contribué à développer sur nos sujets environnement, social et gouvernance. Deuxièmement, je me demandais si j'étais complètement à ma place dans cette position. D'abord parce que, mais finalement c'est une bonne chose, pour une fois que l'équilibre femme-homme est en faveur de l'élément féminin, donc me voilà au milieu. Mais c'est un hommage qui vous est rendu. Et deuxièmement, je tiens à excuser Yves Perrier, puisque Yves Perrier avait accepté le principe de participer à cette manifestation organisée par Jacques Marceau. Malheureusement, pour des raisons d'agenda qui est un peu agité en ce moment, à la fin du mois de juin, il a été obligé de me demander de le remplacer. Et donc, je vais essayer de traduire quelques-uns des éléments de sa pensée. D'abord, un enjeu. Vous avez parlé d'investissements massifs, indispensables sur ces sujets, et Geneviève nous a expliqué qu'on était au début. Les deux propositions sont tout à fait celles que nous avons en tête. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je voudrais vous donner deux chiffres qui me paraissent être assez éclairants. Le premier, c'est d'abord le besoin d'investissement au plan global. Vous avez parlé de la position des républicains américains. Les besoins sont estimés entre 5 et 7 trillions de dollars par an d'investissement supplémentaire par rapport à ce qui est déjà fait jusqu'en 2050 pour atteindre, si possible, cette neutralité carbone 2050. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça représente 6 à 8 fois plus d'investissement annuel que ce qui est déjà fait. Et pour la France, à l'autre bout, comme vous le savez, on chiffre à environ 30 à 65 milliards d'euros par an les investissements supplémentaires nécessaires jusqu'en 2030 pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés de réduire de 55% les émissions de la France d'ici cette date et ensuite la neutralité carbone 2050. Donc 30 à 65 milliards, c'est quelque chose évidemment de très important par rapport aux chiffres actuels. Et il va falloir une mobilisation importante des financements. La démarche que propose Yves Perrier suite au rapport qui a été remis par Bruno Le Maire est peut-être juste un point. C'est vrai qu'on arrive tard. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la démarche, elle est prise. Et ce qui nous a beaucoup frappé en préparant et en réalisant ce rapport, c'est la manière dont l'ensemble des parties prenantes, Geneviève a parlé effectivement des niches et de la nécessité de passer au mainstream. C'est le combat que nous menons ensemble, d'ailleurs, avec des sensibilités un peu différentes, mais dans le même sens. Donc ce mainstream, il est engagé. Les entreprises industrielles, notamment françaises, sont engagées dans la démarche. Nous avons été très frappés de voir que les plans de transition sont à l'œuvre. Et je quitte à l'instant Jean-Dominique Sénard, le président de Renault, qui me disait que le mouvement date d'il y a 3 ans. C'est depuis 3 ans que les entreprises industrielles ont mis en place leur démarche concrète dans ce domaine et que la démarche s'accélère. Et donc, le dernier point, pour ne pas être trop long, la démarche proposée par Yves Perrier, c'était la première question, comment associer les parties prenantes. Toute la question pour nous est d'associer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire de passer d'une démarche, allez, on est entre nous, de chapelle, à laquelle nous avons participé. Et lorsque nous avons lancé en 2017 Finance for Tomorrow, c'était parce que nous étions mobilisés, nous avions les militants de la cause, mais on a voulu, avec Yves, passer à une échelle supérieure, mettre les moyens qu'il faut et, pour cela, rassembler l'ensemble des parties prenantes, les 3 parties prenantes, que sont, 1, l'État, les pouvoirs publics, qui doivent définir les objectifs et la politique à mener. C'est tout le sens du pacte vert de Bruno Le Maire, qui est un premier pas. Deuxièmement, les entreprises industrielles qui sont au premier rang, qui sont au premier rang de l'organisation de notre Institut de la Finance Durable, avec plusieurs présidents d'entreprises, membres de notre conseil, et qui sont associés directement à la démarche et qu'il faut entendre, puisque c'est eux qui ont à mettre en place cette transition énergétique. Et enfin, la place financière qui doit accompagner le mouvement. Si j'avais un petit différent par rapport à Geneviève, puisqu'il faut que j'en trouve un, c'est que je partage là aussi l'idée de Yves Perrier, c'est que notre sujet, c'est moins la finance durable que l'accompagnement de l'économie durable par la finance. Voilà, et je crois que c'est une question de terminologie qui vaut son importance, car la finance est là pour accompagner le mouvement de l'économie et des entreprises.
Justement là-dessus, alors nous on travaille beaucoup sur les questions industrielles, encore une fois toujours sous l'axe économie circulaire, mais en tentant autant que faire se peut, et d'ailleurs c'est nécessaire de le faire, le lien entre décarbonation et économie circulaire. Nous, les retours qu'on a en matière industrielle justement, c'est que de l'accompagnement sur la transformation à la marge, enfin en gros transformation cœur d'usine, ça il y a plutôt eu, si on parle industrie, maintenant cœur d'usine, vraiment l'appareil productif, c'est 5% de l'empreinte environnementale. Mais par contre, au moment où il s'agit de faire pivoter l'intégralité de la chaîne de valeur, du moment où on extrait au moment où on jette, ou en tout cas celui où on devrait recycler, là c'est infiniment difficile, et c'est là, je parlais d'investissement massif, où c'est là où on n'y arrive pas. Et c'est vraiment une vraie question, hein, parce que là nous, c'est des questions qu'on se pose avec l'ensemble de nos adhérents, avec les pouvoirs publics, surtout au moment où le débat va commencer au Sénat sur le projet de loi industrie verte. On voit, enfin voilà, tu disais Geneviève, le compte n'y est pas, bah là le compte il n'y est pas non plus beaucoup. On va parler beaucoup de simplification administrative quand on est sur des enjeux qui sont plus grands quand même. Donc voilà, comment on est, vous évoquiez à très juste titre la question de l'automobile. Exemple très bien de l'automobile, on veut électrifier tout le parc automobile en 2035. Pour électrifier tout le parc automobile, il faut notamment 8,5% de la production mondiale de cobalt. Juste pour la France, normalement, on en aura 1,2%. Comment on fait pour investir suffisamment? Alors, je sais qu'il y a un plan batterie, par exemple, mais comment pour investir suffisamment pour qu'on soit en capacité de reprendre la main de reprendre de la souveraineté. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a même dépassé la partie transition et l'écologique. On est vraiment dans un moment souveraineté. D'ailleurs, si la moitié du gouvernement a souveraineté dans le titre, c'est pas complètement hasard. Alors qu'il y a 20 ans, on disait souveraineté, on était crypto-fasciste, quoi. Donc voilà, là, comment on arrive à développer, et j'en finis, c'est là vraiment une vraie question. Nous, sur les retours qu'on a parfois des investisseurs comme vous, mais aussi des industriels, sur des modèles économiques qui n'existent pas encore. C'est-à-dire que on est sur des modèles économiques, on dit il faut monter en gamme parce qu'on ne réparera pas des produits qui ne sont pas éco-conçus, par exemple. Il faut qu'on avance sur la batterie durable. Pour l'instant, le modèle économique n'existe pas, donc il faut miser les plusieurs centaines de millions. Je crois que vous n'aimez pas trop ça quand même, quand vous ne savez pas exactement ce que ça donne derrière. En plus, dans un espace où il y a des législations mouvantes, ça, c'est toute l'industrie du déchet. Donc voilà, comment on résout cette équation? Je sais bien que la question, elle est impossible. Hein. Il y aurait des réponses, on pourrait sortir et aller boire des verres. Mais enfin, quand même, là, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, on y arrive. Donc voilà, comment on passe à ce vrai moteur de la transition et comment on arrive à lever ces verrous-là qui sont, encore une fois, je l'entends, infiniment compliqués.
Ben, on ne va pas y arriver. Je pense qu'on ne va pas y arriver complètement. Il va falloir vraiment avoir des priorités. Moi, je suis frappée de voir que l'ESG se transforme en ESSG, environnement social, souveraineté, gouvernance. Et ce S de souveraineté, il va être absolument crucial. Alors, il va se faire un peu au détriment de l'environnement ou du social, probablement de l'environnement, parce qu'on ne pourra pas boucler tout. Enfin, je ne vois vraiment pas comment on pourra. Donc, il va falloir avoir des priorités très claires et en fonction des actifs ou de ses positions dominantes ou de ses fleurons industriels. Je ne vois pas comment, ou alors, ça suppose, vu l'état d'endettement, vu l'état de, on va dire, du retard dans effectivement l'électrification du parc, mais c'est surtout vu l'aveuglement. Enfin, je prends un peu un accent un peu militant, mais. Par exemple, même à supposer que je sois complètement, et d'ailleurs je suis agnostique, moi plus je vieillis, plus j'ai des doutes, donc je vais pas vous dire voilà la voie, etc. Mais en étant agnostique sur le type de croissance qu'on va avoir demain, par exemple le secteur l'aviation. Si on est d'accord pour se dire que l'aviation c'est pas hier qu'on a découvert qu'il fallait faire quelque chose. Alors c'est pas le secteur le plus émetteur de la planète, mais enfin c'est un noyau. En tous les cas, l'aviation correspond en termes industriels, de chaîne de valeur, de mode de vie, etc., d'empreinte économique, quelque chose d'extrêmement important. Pour qu'on pourrait se dire pourquoi les industriels ne se sont pas mobilisés beaucoup plus tôt. Alors peut-être pas tellement sur l'avion à hydrogène, parce que je mets plus de mots sur les fuels soutenables. Donc on voit qu'il y a du retard sur des filières pour identifier les bons leviers. Alors peut-être que c'est des questions de flécher le coup. C'est des time to market aussi. Peut-être qu'on n'aurait pas trouvé d'investisseurs qui auraient pris des risques sur ces sujets. Mais je trouve qu'on a vraiment attendu le dernier moment pour pouvoir mobiliser des flux financiers conséquents. Et parce que en fait, on est toujours dans une approche, voilà, toujours de moins en moins, c'est vrai Arnaud, tu as raison, mais on est quand même encore dans une approche où la question est de dire est-ce qu'il est encore, quand est-ce qu'il va être, est-ce qu'il n'est pas encore trop tôt pour savoir s'il est trop tard, si je fais court. Et donc je tiens encore ma rente parce que c'est très compliqué de remettre à plat une chaîne de valeur, c'est très compliqué de renoncer, c'est très compliqué d'imaginer d'autres ressorts de la croissance parce que tout simplement c'est inédit, on ne l'a jamais fait, ça n'est jamais arrivé depuis la révolution industrielle que l'on soit confronté à ce mur-là. Donc je pense qu'il va falloir qu'on choisisse et je pense aussi qu'il va falloir, c'est un sujet éminemment sociétal, je crois que c'est un sujet démocratique, sociétal, il va peut-être falloir aussi revoir certains standards et nos modes de vie. Alors là, c'est la vice-présidente du Chiffre Project qui parle, mais je ne vois pas comment on va pouvoir faire l'abstraction d'une remise à plat. Qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie satisfaisant? Ben voilà, c'est le mot satisfaisant. Satisfaisant à l'aune des limites planétaires, c'est forcément un questionnement qui pas uniquement propre aux financiers, aux industriels, mais en tous les cas, pour les industries qui sont nos fleurons et qui sous-tendent toute notre... à la fois voilà, sur lesquelles il y a des enjeux de souveraineté extrêmement importants, je trouve même là qu'on a pris du retard.
D'ailleurs, ouais, excellent exemple que l'aéronautique, parce que justement, là, on parle de priorité, le fuel durable, ça nécessite de la biomasse, et biomasse dont on a aussi besoin pour faire du gaz, surtout qu'on en a beaucoup besoin depuis la guerre en Ukraine. Donc, de toute façon, effectivement, la question des priorités, elle va être essentielle. En priorité, pour vous, ça serait quoi? Si on avait deux, trois, peut-être, sur lesquelles l'Institut de la Finance Durable dit c'est là où il faut investir beaucoup et aller vite. Et...
Alors, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Moi, je pense qu'on va y arriver, naturellement. Il faut que je dise des choses un peu différentes de Geneviève. Et donc, l'Institut de la finance durable est convaincu qu'on va y arriver. Et pour cela, en fait, on est en train d'abattre trois murs différents et qui doivent être abattus. Le premier mur, c'est celui du passage à l'acte. Yves Perrier rappelle Urbi et Orbi que le sujet aujourd'hui, et là on va être en accord avec Geneviève, c'est de passer du mieux-disant au mieux-faisant. Les engagements, c'est bien. Les engagements, on y a contribué. On les a mesurés. On les a mesurés d'ailleurs avec l'Observatoire de la finance durable qui a été mis en place avec Finance for Tomorrow. Donc on rassemble toutes les données. Mais maintenant, le sujet n'est plus uniquement les engagements. C'est la réalisation. Et donc, sur ce plan-là, il faut évidemment accélérer. Et je répète ce que je disais avant, nous, on est quand même extrêmement frappés du caractère très concret des plans de transition et des objectifs que se fixe l'ensemble du monde industriel et des entreprises industrielles avec des feuilles de route qui sont extrêmement claires. Et comme les directives et le comportement des investisseurs et des banques, je vois Jean-Paul, les deux, Jean-Louis, Jean-Paul et Julien devant moi, sont là pour rappeler à l'ordre. Je peux vous dire que la démarche, elle est vraiment en train de s'accélérer et de se concrétiser. Deuxièmement, le deuxième mur, c'est celui de mettre en place les instruments de mesure et les financements qui vont avec. Nous nous sommes fixés 4 chantiers prioritaires pour ce qui est de l'Institut de la finance durable. Le premier, c'est la comptabilité CO2. Comment on mesure et dans une approche qui soit homogène entre les besoins des investisseurs et des entreprises. Le deuxième, c'est accélérer le reporting non financier. Nous contribuons à tous les travaux CSRD, ESRS et autres travaux européens. On a un léger différent par rapport à la taxonomie européenne d'origine. C'est que pour nous, le sujet, il n'est pas d'orienter les investissements vers ce qui est réputé déjà vert. Et dans les travaux du High Level Expert Group auquel on avait participé, il y avait 10% des actifs européens considérés comme verts. Et orienter les financements vers Tesla, qui est considéré comme déjà vert, nous paraît au moins pas prioritaire, y compris parce que Tesla n'a aucun besoin de financement. Mais par contre, d'orienter les financements vers les entreprises et les industries qui en ont besoin, l'automobile, on en a parlé, Renault, Volkswagen, qui ont le passage à faire du brun au vert. Et si on veut que le sujet progresse, c'est bien ça. Il faut faire passer l'industrie du brun au vert d'une manière générale et pas uniquement se centrer et cibler ce qui est déjà vert. Et enfin, le dernier sujet, pour ne pas prendre plus de temps, c'est le financement. Alors, mon message, c'est que l'Institut de la finance durable va produire dans les jours qui viennent son premier rapport, qui est un rapport sur le plan de financement de la transition écologique pour la France, qui a été remis à Bruno Le Maire et que nous allons rendre public dans les jours qui viennent et qui fait à la fois l'état des besoins à financer. J'ai parlé des 30 à 65 milliards, qui coïncident d'ailleurs avec les chiffres de France Stratégie et de M. Pisani-Ferry. On a une démarche, nous, qui est un peu différente de celle de Jean Pisani-Ferry, qui est d'analyser la manière dont on peut aujourd'hui réorienter les flux d'épargne qui sont importants. On parle de 30 à 65, il y a 100 milliards de flux d'épargne annuels en France, et l'assurance vie notamment. Mais on vous donnera le détail un peu plus tard. Je ne suis pas mandaté pour rendre public pour l'instant nos recommandations. Mais ce sont des recommandations qui sont extrêmement concrètes, fortes et qui prétendent arriver au résultat.
Merci, c'est très clair sur les 4 recommandations. Vous avez votre propre micro, hein, même. Hein,
bien sûr, on aime bien partager avec Carlo. Ouais,
je ne veux pas m'immiscer dans votre histoire. Avec
on s'est connu un peu tout petit.
Non, effectivement, c'est un bon résumé. Alors nous, c'est marrant quand on résume aussi un peu ce qu'on... Alors, le travail qui reste à mener, il va falloir qu'on veuille ce qu'on demande. Et je trouve qu'en matière de transition écologique, c'est beaucoup ça, le passage de l'invisible au visible. Enfin, actuellement, l'énergie, elle passe par des tuyaux, on la voit pas arriver. La production, elle est lointaine. On exporte, enfin, je suis un peu à grand trait, quoi. On exporte nos déchets en Inde. Là, on est dans un monde où la transition, ça va rendre visible, finalement, tout ce qui était loin. Les ENR, elles sont sous nos yeux, la production, elle est sous nos yeux, et les déchets, il va falloir les traiter nous-mêmes. Donc c'est vrai que cette transition-là et le besoin d'accompagnement qui existe en termes de transformation pour la population, surtout si elle ne s'y retrouve pas complètement, il est important. Moi, il y a un sujet quand même, je suis désolée, je vais revenir vous chercher sur le truc. Je vois bien, je suis assez d'accord que les entreprises, elles ont plutôt bien... leur plan de transition, c'est intéressant. Mais comment on arrive à faire transitionner toute la chaîne de valeur ? C'est-à-dire, le plan de transition de Renault, il est bien. Les équipementiers, ils sont moins contents. Si on regarde, que ça soit en amont ou en aval, hein, j'ai bien fait le... oui, amont, aval, on se rend compte qu'on n'arrive pas à bouger encore, finalement, les modèles économiques et qu'il y a plein de trucs dont on parle beaucoup et qu'on n'arrive pas complètement à faire tourner. Et là, si on est, alors encore une fois, sur le sujet que je connais mieux, qui est celui de l'économie circulaire, dans l'automobile, on a encore du mal à accélérer. Donc, alors, je sais que c'est plutôt un sujet là, de la table ronde encore d'après, mais comment, finalement, ces questions de planification, parce qu'on voit que c'est de ça dont il s'agit, on arrive à être sur une vraie discussion sur... le financement de la transformation sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de façon générale, c'est un peu un mantra aussi. Pourquoi je utilise ce terme, en tout cas, une phrase qu'on se répète souvent, on est vraiment dans une logique, il va falloir passer de la consommation à l'investissement dans tout. Au niveau des ménages, on va investir dans des manteaux plutôt que de les consommer. Et également, mais je sais, Jacques, hein, tu vois, je surveille comme le lait sur le feu.
Très
il me reste 3 minutes. Mais, donc, on ne nous les volera pas. Hein, mais voilà. Donc, comment on arrive là-dessus à planifier vraiment et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et en laissant pas au fond les entreprises toutes seules, parce que là c'est un peu ça, elles transitionnent tranquillement, donc c'est peut-être là en 3 minutes voilà, comment on transforme toute l'économie mondiale et française.
Oui, non, pas en 3
minutes. Vous avez une minute chacun.
Voilà, une minute chacun. C'est là encore une fois, peut-être qu'on va y arriver, mais le problème c'est qu'on aurait dû s'y prendre bien plus tôt. Mais je vous donne un exemple tout simplement, une entreprise comme Decathlon. Comment elle fait très clairement sur sa chaîne d'intégralité. Alors c'est pas une industrie industrielle, mais on pourrait prendre. Mais c'est quand même de la grande consommation et c'est comment on fait. C'est-à-dire la chaîne de valeur est au Vietnam, est en Chine. Comment, donc si on revient, on réinternalise en Europe, c'est pas les mêmes coûts. Très bien. Est-ce qu'on est dans un modèle d'économie de la fonctionnalité? Et c'est plus du tout la même entreprise. Donc à la fin du fin, que ce soit pour Decathlon, pour que ce soit pour Renault ou que ce soit pour Airbus, c'est quoi le modèle de création de valeur demain à l'aune des limites planétaires? Et je suis désolée, on peut pas faire rentrer un cercle dans un carré. Donc ça va nous demander des ajustements extrêmement importants, peut-être de coopération. Et peut-être des trous d'air, sans jouer la métaphore aérienne, des trous d'air importants, mais sans une planification et sans passer par une case sobriété, et en espérant de la rendre désirable, je ne vois pas comment on va y arriver, parce que sinon, ça risque d'être de la pensée magique.
En une seconde pour Jacques, la réponse c'est scope 1, scope 2, votre question est tout à fait pertinente. Scope 1 et scope 2, les choses sont bien en cours. Scope 3, celui de la chaîne de valeur, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Mais on avance. Je pense que les choses avancent et que les entreprises industrielles avancent, y compris avec l'aide de leurs partenaires financiers et des directives européennes qui arrivent. Les sujets sont traités au niveau européen. D'ailleurs, beaucoup va être traité au niveau européen. Et enfin, il y a même un scope 4. Qui est la mesure de l'impact que l'entreprise a sur son environnement en matière d'économie d'émissions autour d'elle. Et ça, pour l'instant, personne n'en parle. Il va falloir également qu'on en parle. C'est vrai, la chaîne de valeur, c'est le principal, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mais franchement, je crois que tout le monde est penché sur le sujet et que les choses commencent à prendre corps.
Je pense que... Donc, en gros, il faut quand même que les financiers parlent carbone couramment. Donc il y a un nouvel alphabet qu'il va falloir
carbone
les financer.
Carbone et ressources. Hein,
carbone. Alors déjà, si on arrive au carbone, ça sera déjà très bien. Parce qu'être capable de challenger une trajectoire de neutralité carbone quand on est analyste, quand on est DAF, quand on est... Parce que moi, j'ai vu passer des trajectoires de neutralité carbone qui étaient tout simplement délirantes. Donc voilà, il y a un énorme champ de connaissances. Et là où je suis positive, c'est que ça va nous rendre plus intelligents, ça va nous rendre peut-être plus affûtés. Et là, il y a vraiment des terrains d'expérimentation et des sources d'innovation que je considère comme étant stimulantes. Donc de ce côté-là, l'univers des risques s'intensifie, le niveau de connaissance aussi, parler carbone couramment et ressources. Ça sera revenir aux encyclopédistes, ça devrait peut-être satisfaire Jacques. On va revenir au XVIIIe siècle, au grand siècle, au XVIIIe siècle.
Merci beaucoup à tous les deux. Désolée, moi je suis obligée de conclure sur on décarbonera pas sans ressources, sinon je perds mon poste. Voilà, donc il faudra. Faites les deux en même temps.
Merci Emmanuel Ledoux, merci Arnaud Bresson, merci Geneviève Ferron. Je me demandais en vous écoutant si on a eu raison de commencer par ce sujet qui est un sujet, comment dire, compliqué. On parlait de mur, effectivement, on sent bien l'idée de ce mur et ces changements de paradigme qui provoquent justement tous ces questionnements. En tout cas, j'ai retenu qu'on parlait maintenant de critères ESG, qu'il fallait apprendre à parler carbone. Donc on va s'y employer. En tout cas, pour notre deuxième conversation, c'est pas qu'on a choisi un sujet plus léger, parce qu'il n'est pas forcément plus léger, mais en tout cas, il paraîtra un peu moins insurmontable ou en tout cas difficile. Réinventer les rapports entre la banque et l'État. Alors les réinventer, ça veut dire qu'ils existent de tout temps et que depuis aussi longtemps que les sociétés existent, les banques existent. Je ne sais plus qui disait d'ailleurs que la banque était l'autre plus vieux métier du monde, ce qui est peut-être vrai, je ne sais pas. Alors pour en parler, non pas du plus vieux métier du monde, mais pour cette banque, réinventer la banque entre la banque et les rapports entre la banque et l'État, j'ai demandé à Jean-Louis Bancel, qui est président d'honneur du groupe Crédit Coopératif, de mener cette seconde conversation. Jean-Louis a travaillé à la direction des assurances au ministère de l'économie, des finances et du budget. À une époque, il était directeur de cabinet de la secrétaire d'État à la consommation. Il était secrétaire général du groupement des entreprises mutuelles d'assurance, directeur général de la Fédération nationale de la mutualité française, président de l'Association internationale des banques coopératives. C'est en 2005 qu'il a rejoint le groupe Crédit Coopératif. Il en est devenu le président en 2009 et il a été nommé, il est aujourd'hui président d'honneur du Crédit Coopératif et président du COPFR et président de coopérative en 2017. Donc c'est dire s'il connaît à la fois le secteur de la banque et le secteur coopératif. Jean-Louis, je vous laisse la main, et vous allez recevoir donc Julien Carmona, président du Crédit Mutuel Arkéa, et Jean-René Cazeneuve, député du GER, rapporteur général du budget de l'État. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Christian.
Est-ce que ça marche ? Oui, parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous remarquerez que cette table ronde est très genrée. J'en avais fait la remarque à Jacques, mais bon, j'assume néanmoins d'en faire l'animation. Merci de nous avoir proposé ce sujet, parce que dans les mots d'introduction, Jacques rappelait au cours du Second Empire la place, le rôle qu'ont joué un certain nombre de banquiers et de banques, bien évidemment, pour le développement économique de notre pays. Mais, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'État était aussi présent à sa façon, mais il ne s'agit pas forcément de vouloir reproduire la situation de l'époque aujourd'hui. Alors, on ne va pas, bien sûr, dans les temps qui nous sont impartis, refaire une fresque totale. On va essayer de jeter des petits points d'observation. Mais on le sait tous, il y a de sérieux défis qui concernent tout un chacun. D'abord, en tant que citoyen, j'allais dire. Hein. Donc, ça concerne, ce faisant, les deux interlocuteurs sous forme institutionnelle que sont les pouvoirs publics, et les structures financières qu'on va mettre sous ce vocable très large de banquiers, sachant que même la France a la chance d'avoir une grande diversité de formes d'opérateurs bancaires. Donc dans les éléments du défi, on l'a entendu là, à l'instant, bien entendu, les questions d'enjeux climatiques, est-ce que ça induit dans les mutations pour notre économie, mais il y a d'autres éléments que la seule dimension climatique. Par exemple, on le sait bien, l'enjeu des data, bien évidemment. L'évolution, parce que je trouve que, enfin ça c'est juste peut-être ma manière de voir les choses, l'évolution nécessaire de notre modèle agricole. La France se veut un grand pays agricole. Je pense qu'on a des grands défis dans ce domaine, et même nous banquiers, on en parlait avec Julien, nous ne pouvons pas rester indifférents à cette question. La solidité du contrat social, parce que je pense que c'est vraiment ce qui est aussi derrière, à travers les débats autour de quel type de sobriété ou je ne sais quoi, entre les générations en particulier. Sans oublier, bien sûr, les questions d'éducation, de santé, de manière de vivre et d'assurer la solidarité en notre territoire. Toutes ces questions, bien sûr, vous les synthétisez à travers la vision que l'on peut avoir en tant que rapporteur général du budget, à travers les approches sur les questions de finances publiques au sens large, pas que de budget de l'État d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres dimensions que le seul budget de l'État. Alors, ce que je voulais aujourd'hui, c'était qu'on essaie d'amorcer un échange qui ne soit pas qu'un échange de spécialistes, parce que un de mes regrets sur ces questions bancaires, c'est que je trouve qu'on n'en parle plus assez comme un débat, je ne veux pas dire sociétal, il ne faut pas exagérer, mais de société en tout cas. Je me rappelle toujours, c'était juste pour vous faire un clin d'œil, monsieur le rapporteur général, ce rapport très intéressant effectué par un autre rapporteur général du budget, du Sénat, monsieur Alain Lambert, qui avait fait ce rapport très percutant, qui s'appelait « Banquier, votre santé m'intéresse ».« Banque, votre santé m'intéresse ». Je pense, à ma connaissance, que c'est la dernière fois, et ça remonte donc, que j'ai vu, dans une enceinte parlementaire, un débat large sur quelle banque voulons-nous. Alors, je voulais commencer par demander à nos deux interlocuteurs une question simple. J'ai toujours pensé que c'était assez étrange de voir que certains se réjouissaient quand certains pays allaient mal, que néanmoins les banques allaient bien. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire des pays qui allaient mal et dont les banques allaient bien. J'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner sans un minimum de symbiose. Alors, tout n'est pas forcément pile calé, mais enfin bon. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que globalement, au-delà du fait que ce pays sert à aller, un pays a les banques qu'il mérite. Et donc, j'ai une question à vous poser à chacun, la même. Pensez-vous que la France a les banques qu'elle mérite ? Alors, monsieur le rapporteur général, je vous laisse la parole.
Merci d'abord pour votre invitation. Merci d'avoir précisé aussi que ce n'était pas un débat de spécialistes, ça tombe bien. Donc, écoutez, j'ai l'impression qu'on n'est plus, si c'est le sens de votre question, qu'on n'est plus dans cette phase assez caricaturale où le monde de la finance était au nid. Bon, ça résiste bien quand même, ceux qui sont, qui n'aiment pas ce secteur-là et qui n'ont de cesse de vouloir l'attaquer avec telle ou telle réglementation, telle ou telle taxe. J'y reviendrai, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui sont plus haïes que le secteur bancaire. Je ne sais pas si c'est sur votre question. Donc Total, par exemple, beaucoup de Sanofi. Voilà, il y a comme ça des emblèmes, des totems qui cristallisent l'agressivité d'un certain nombre de députés. Bon. Notre secteur bancaire, mais vous le savez mieux que moi, se porte bien. Enfin, je pense que moi, j'en suis très fier. Donc, je pense que on a, vous le savez, des établissements qui ont une place importante dans le jeu mondial. Moi, je fais partie de ceux qui se félicitent quand on a des acteurs mondiaux en France et que ce soit pas plutôt des acteurs mondiaux qui soient à l'international. Donc, c'est une réussite par la diversité aujourd'hui du secteur bancaire qui apporte de manière évidente des réponses à tous les types de besoins aujourd'hui. Donc il y a cette complémentarité entre les généralistes et les spécialistes. J'ai l'impression que on a mis un petit peu d'énergie, mais que l'attractivité de la place française aussi a progressé. Alors, on n'est pas encore au bout de notre chemin. Il faudra continuer à faire un certain nombre d'efforts, je pense, côté fiscal en particulier, mais je pense que voilà, il se passe des choses aujourd'hui sur la. Mais bon, ça n'est jamais acquis. La semaine dernière, oui, on a passé une petite nuit sur le sujet. Certains voulaient augmenter la taxe sur les transactions financières. Bon, c'est pas passé parce qu'ils étaient. Tout le monde n'était pas dans l'hémicycle. Il y a des moments où tout le monde est dans l'hémicycle. Il y avait un risque. Hein. Il ne faut pas aujourd'hui imaginer que dans un contexte de majorité relative, en particulier, il y a un certain nombre de risques là-dessus. Donc, bon, voilà, il y a encore des attaques. Enfin, je trouve que, franchement, il y a un dynamisme aujourd'hui autour du secteur bancaire. Alors, c'est peut-être le député Gersois aussi, mais je trouve que ce qui est important et ce qui est aujourd'hui un atout dans l'esprit de nos concitoyens, c'est la présence, votre réseau d'agences qui est absolument colossal. Vous savez, il y a toujours cette idée, qui est assez juste d'ailleurs, que les services publics ont régressé, sont moins dans les territoires, sont fermés, et il faudrait qu'il y ait un certain nombre de services qui ont disparu, mais la banque reste, les réseaux bancaires, j'imagine que vous êtes en train de rationaliser tout ça, mais en tous les cas, ce réseau, ce maillage extrêmement important fait partie aussi de l'attractivité et de cette relation qui est entre le secteur bancaire et les citoyens.
Ok, je reviendrai en complément, mais Julien, sur ce premier point, est-ce que la France a les banques qu'elle mérite ?
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense que la première chose, c'est d'avoir des banques qui font pas faillite. Pardon pour.
Voilà. On y reviendra.
On y reviendra.
Nos voisins de la frontière, là, oui.
Oui, les voisins, les États-Unis, etc. Je pense que les banques, vous le disiez, monsieur le député, merci, ne sont peut-être plus le secteur le plus honni, mais elles ont encore à se faire pardonner. Par rapport aux crises précédentes. Et effectivement, l'idée des banques qui se comportent comme des casinos et qui peuvent menacer le secteur financier, évidemment un pays derrière où ses contribuables, c'est derrière nous, mais je pense qu'il faut encore plus de temps pour que ça soit totalement derrière nous. Premièrement, je ne suis pas adepte de la langue de bois, mais là je vais être extrêmement poli avec les superviseurs, les régulateurs et superviseurs. On a quand même accompli énormément de progrès en Europe, au sens Europe continentale, et les banques françaises en font partie, en termes de qualité de la supervision bancaire. Donc si on regarde peut-être le premier critère de la banque, c'est-à-dire la gestion saine et prudente des risques, le fait que ça ne va pas sauter, on a une très bonne supervision en Europe avec la Banque Centrale Européenne. On a des banques françaises très robustes, il ne faut jamais dire jamais dans ce domaine, qui est le domaine aussi de la confiance et de l'impalpable, mais quand même très bien capitalisées, très liquides, des bons modèles d'affaires, peu de risques. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Jacques, c'est quand même mieux que la banque du temps des Pereire, c'était magnifique, mais ça faisait faillite assez régulièrement.
C'était un peu casino. Ouais.
Exactement. Ensuite, effectivement, l'image s'est améliorée, mais pas seulement du fait des crises, parce qu'il y a eu meilleure prise de conscience de l'intérêt, du lien entre banque et intérêt collectif, le financement de l'économie, donc tout ce qui a été les PGE, ça je pense très très bonne politique publique pour le coup, hein, monsieur le député, et les banques qui ont joué leur rôle. Et maintenant, effectivement, ces sujets discutés dans la première table ronde où non seulement on adhère totalement, mais c'est notre stratégie depuis fort longtemps, d'être le moteur, en tout cas le carburant, disait Emmanuel, voilà, des transitions environnementales et sociétales, tout ça, c'est très bien. Et donc une image qui s'améliore, une réalité qui s'améliore. Après, il y a banque et banque. Et donc il faut un écosystème diversifié, on y reviendra. Le secteur bancaire français, c'est 35% du secteur bancaire européen. Donc oui, c'est beaucoup. Deux fois plus que la part de l'Allemagne, par exemple. Voilà. Donc c'est bien. Il y a une part de champions mondiaux, et c'est très bien, il en faut. Alors nous, ce n'est pas notre modèle à nous, même si on respecte énormément. Nous, on est une banque coopérative territoriale. Crédit Mutuel Arkéa, 2 à 2,5% du bilan consolidé du secteur bancaire français, des réseaux qu'on ne rationalise pas, et effectivement un plus qui est ce côté 100% territorial assumé. Chacun va donner sa définition de ESG ou RSE, donc nous c'est responsabilité sociale, environnementale et territoriale. Je pense que c'est très important, et un dernier mot, là pour reprendre le sujet macro, la banque en France c'est une industrie, je dis bien une industrie avec 400 000 salariés, un État qui la défend, mais qui la met peut-être pas au premier plan par rapport à tout ce que ça peut entraîner derrière, des faits positifs. Voilà. Donc peut-être envie d'être un peu plus aimé, mais on a des choses à se faire pardonner.
Bien, merci de cette première réponse, premier survol. On va peut-être un peu plus plonger sur y a-t-il un modèle bancaire français et est-ce qu'il doit être, entre guillemets, cultivé, renforcé, défendu, promu, je ne sais quel est le verbe que vous allez choisir. Donc on va commencer par un premier sujet qui est les banques et les ménages, puisqu'on le sait tous, le métier des banques, c'est de collecter l'argent des ménages pour ensuite en faire un bon usage. Ce sera la deuxième volet qu'on évoquera, qui est bien entendu les relations avec les entreprises, et en particulier le monde des PME, ETI. Et donc, il y a même au moins, me semble-t-il, deux grandes spécificités du modèle français qu'il faut même toujours rappeler. Le problème vis-à-vis des ménages, c'est dans le crédit au logement, pour faire simple. c'est même la logique du taux fixe. Nos amis anglais ont vu les joies que c'était que d'être en taux variable quand d'un seul coup la Banque centrale augmente les taux et qu'ils ont vu le coût du remboursement de leur crédit exploser grâce au système des taux variables. C'est même un système qui a sans doute quelques avantages pour les ménages, qui a peut-être quelques inconvénients pour les banquiers. Et donc c'est un modèle en tout cas dont on est sans doute assez content en France. Mais enfin, quand on regarde à l'échelon européen, certains disent que c'est un pas si terrible modèle que ça dans l'intérêt des banques. Donc c'est même un point à regarder. Deuxième, bien entendu, c'est l'importance de l'épargne réglementée. Ça remonte à très loin. Avant même, puisque là, il faut remonter au Napoléon le Ier, à la fondation des caisses d'épargne et de prévoyance, n'est-ce pas, avec donc un rôle éminent donné non seulement à l'État comme régulateur, mais bien entendu à l'État même comme, en partie à travers la Caisse des dépôts, centralisateur de cette ressource, à des fins d'intérêt général, parce que nous ne pouvons pas faire tout à fait ce que l'on veut. Il y a même Bruxelles qui nous regarde d'un peu près dans cette affaire. Et donc, j'avais une question différente à chacun sur ces spécificités françaises. Alors, peut-être pour Julien, on va commencer par lui. Donc, on a un système qui est quasiment universel en termes de couverture de la population. Il y a peu de monde qui ne soit pas bancarisé dans notre pays, pour des raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais en même temps, dans un pays qui a 63-64 millions d'habitants, les besoins doivent être assez différents en fonction du lieu où on habite, de l'état de son âge, de l'état du ménage, etc. Justement, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot « c'est une industrie ». Mais est-ce que nous, banquiers, on ne veut pas trop industrialiser, normaliser? Et qu'est-ce qui se passe sur les gens qui sont sur les bords? Et il peut y avoir de nombreux bords. Alors, bien sûr, on peut penser aux bords des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est des choses qui ont été mises en place. Ayant été directeur de cabinet de la ministre qui a fait la loi sur le surendettement, on a traité ces questions sur les questions, par exemple, de surendettement. Mais il y a des tas d'autres situations diverses. Donc, sur ce terrain-là, dans le modèle bancaire français, est-ce qu'on n'est pas trop, les uns et les autres, obsédés par une logique de trop grande industrialisation au moment où l'industrie elle-même essaye de faire plutôt de la customisation, ce qui a permis peut-être aux nouveaux opérateurs de venir un peu nous titiller.
Si vous avez tout à fait raison, vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Donc évidemment, derrière la banque, derrière les services financiers, il y a de l'informatique et il y en a de plus en plus, donc des logiques de plateforme, des logiques d'effet d'échelle, et il faut que chacun, effectivement, ait sa stratégie, en tire le meilleur. Mais derrière, effectivement, il y a aussi des clientèles qui ont des besoins différents, des territoires qui ont des besoins différents, et puis des stratégies d'entreprise qui correspondent finalement aux valeurs de chacun. En ce qui nous concerne, c'est d'être une banque inclusive. On a une raison d'être, on dit qu'on est une banque inclusive et solidaire pour tous les clients, des précurseurs aux plus fragiles. Donc la banque de tout le monde et pas celle des premiers de cordée ou voilà, pas d'exclusive là-dessus. Ça, c'est important, c'est notre stratégie et c'est un domaine où l'État est tout à fait fondé à réglementer. L'État est le législateur. Il y a eu des progrès dans ce domaine. Donc voilà, il faut que les banques mutualistes continuent à se singulariser pour offrir des réponses, justement, à un certain nombre de clientèles, de groupes affinitaires, nos sociétaires, finalement. Mais je pense qu'il y a place pour, effectivement, beaucoup de modèles. Après, si vous me permettez rapidement, le sujet derrière, c'est un peu la question mutualisation ou démutualisation. Le modèle bancaire français, il est très particulier, parce que finalement, il y a énormément de produits. Et on peut dire, voilà, certains, comme le crédit immobilier, ça choque quand on en parle devant des non-spécialistes, mais on ne gagne pas d'argent là-dessus exclusivement. En revanche, quand on prend la globalité, on se rattrape. Et là où on peut se heurter aux tendances consuméristes, à la fois dans la législation et dans l'évolution du marché, c'est que, eh bien, un certain nombre de spécialistes vont aller prendre les parties rentables et ça risque de ne laisser aux banques généralistes universelles que les parties non rentables. De toute façon, il faut que le marché vive, il faut qu'on s'adapte, mais ça, c'est peut-être la principale problématique aujourd'hui.
Merci. Alors, monsieur le rapporteur général, moi, j'avais une question autour de l'épargne réglementée, parce que quand on voit ce pactole, plein de gens ont plein de bonnes idées pour en faire un bon usage. On en sait quelque chose autour des débats au cours, justement, sur la législation, la fabrication de la législation. Néanmoins, Bruxelles nous regarde de près, parce que ben, soit on a une première vision dans certains pays qui dit « mettez-moi tout ça à la poubelle, faites en sorte que seuls les marchés fonctionnent et tout ira bien. Seul le marché sait allouer correctement l'argent, c'est bien connu. Bon, en tant qu'homme politique, vous savez sans doute que nos concitoyens sont assez attachés, je pense, à l'épargne populaire, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle. On ne l'appelle pas forcément réglementé. Et que, bien entendu, du côté des banquiers, on explique que, oui, on aimerait bien utiliser tout ce qu'on nous propose de faire, que ce soit depuis, bien sûr, le logement, puisque logement social, mais d'autres sujets d'intérêt général, mais que, par ailleurs, le coût de la ressource est même quelque chose d'important. Alors, comment vous vous en sortez, vous qui êtes à la confluence de ces débats, entre les épargnants, les banquiers, les utilisateurs finaux, et est-ce qu'il faut garder cet élément de l'originalité du paysage français?
J'ai envie de dire pas touche au Grisby, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les Français, ils sont extrêmement attachés. Je crois que c'est 850 milliards d'euros à peu près, c'est l'ordre de grandeur. 81% des Français à Candelia. Et si vous touchez ça, franchement, ça aura à peu près le même effet, probablement supérieur à toucher l'âge de la retraite. Donc personne n'a envie de le faire. Je ne pense pas que ce soit dans les tuyaux. Donc, personne n'a envie de le
faire. Non,
personne n'a envie de le faire. Là aussi, pour illustrer peut-être ce propos de manière un peu terrain, quand les taux baissaient, je me souviens, personne venait dans ma permanence m'engueuler. C'est-à-dire, le taux baissé, on les volait. Et vraiment, les gens me parlaient presque avec des trémolos dans la voix, me disant, mais c'est scandaleux ce que vous faites, j'ai mis mes économies, j'ai fait confiance à l'État, et l'État me trahit. Donc, c'est-à-dire, ce lien, bon, maintenant, ils reviennent plus parce que les taux augmentent, même si, évidemment, ils n'augmentent pas au niveau... Oui, ils n'augmentent pas au niveau de l'inflation. Mais non, mais c'est déjà un autre niveau de compréhension que de mesurer le taux du livret A. Donc, je crois que c'est vraiment là... un bienfait national, un chef-d'œuvre national auquel il faut pas toucher. Probablement, il faut le faire évoluer. Bon, il y a d'abord le sujet des taux, qui est évidemment un sujet extrêmement, extrêmement complexe, évidemment, dans l'équilibre. Il faut probablement le toucher sur, pas le taux, mais enfin, le taux, il y a une formule pour le recalculer, vous le savez, mais toucher probablement le périmètre. Voilà, on pourrait imaginer d'élargir un petit peu. Est-ce qu'il faut toucher au plafond? Est-ce qu'il faut. J'en sais rien, mais. Et puis, travailler sur l'utilisation qu'on en fait. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça finance essentiellement le logement social. Alors, le logement social, c'est évidemment très important. Mais est-ce que c'est la priorité numéro un aujourd'hui? Bon, je vais faire un lien, peut-être un pont avec la table ronde précédente. Je veux dire, si on veut financer la transition écologique, on a peut-être là un certain nombre de leviers. Alors, évidemment, ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier aujourd'hui vont hurler. Mais c'est comme le même sujet que c'est le sujet sur les taux, si vous voulez. Donc, quand les taux augmentent, c'est pour refroidir l'économie. Je fais simple, hein, mais bon. Et évidemment, les secteurs qui sont impactés, dont l'immobilier, se précipitent chez nous. Ils vont à Bercy, ils vont chez nous. Et puis, ils veulent un certain nombre d'aides. Et donc, il faudrait donner, si vous voulez, d'une main ce que l'augmentation des taux a eu comme effet. Évidemment, ça n'est pas possible. Ça ne serait pas cohérent. Donc, je pense qu'il faut que... j'allais dire, hélas, mais c'est un mal nécessaire que l'augmentation des taux refroidisse le secteur de l'immobilier avec une adaptation nécessaire, évidemment, de la part des acteurs. Probablement aussi un impact sur le logement social. Mais je crois qu'il faut réorienter une partie, effectivement, de ces sommes vers ce qui est devenu, de mon point de vue et du point de vue, je crois, de beaucoup de nos concitoyens maintenant, la transition écologique.
Merci. Alors, venons-en rapidement au sujet des entreprises. J'ai qu'une question et la même à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous ne pensez pas que les banquiers, alors, étaient d'un point de vue peut-être historique et aujourd'hui, du fait de la contrainte, j'allais dire régulatrice, on va dire comme ça, trop frileux sur les questions d'innovation vis-à-vis du monde des PME, ETI, et en particulier dans les domaines de dire « il faut aller vers une industrie verte ». Ok, fort bien, mais quand par ailleurs on nous dit il n'y a pas de modèle économique, on ne sait pas si tout ça, ça sera rentable, donc le réflexe comme banquier, c'est de dire est-ce qu'ils me rembourseront jamais? Je peux comprendre que le régulateur nous explique que nous, il n'est pas question qu'on embarque des risques. Donc, comment vous pensez qu'on peut arriver à marcher sur une ligne de crête sur cette question usage de l'argent collecté auprès des ménages destiné aux entreprises et en particulier donc sur les sujets terrain innovant. Monsieur Castel.
Bon, peut-être le dire, vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, rapidement, mais bon, l'action du secteur bancaire pendant la crise du Covid a quand même été déterminante. Oui. Pour soutenir notre action économique. Oui, je fais partie, c'est peut-être très simple, hein, mais je pense des gens qui ne dissocient pas l'activité économique et la réussite des entreprises, de la bonne santé du secteur bancaire. Leurs destins sont évidemment liés. Et je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui pour aller chercher le plein emploi, tout ce qu'on fait pour soutenir, on nous accuse beaucoup d'être pro-business, mais voilà, je participe, je crois, à la bonne santé indirectement des banques. Et quand on a fait cette histoire de PGE, beaucoup avaient prédit une sinistralité colossale. Elle n'y est pas. Évidemment, elle augmente un peu avec la reprise, avec en plus cette crise ukrainienne qui vient se rajouter à la précédente. Mais il n'y a pas de sinistralité très importante. On est vraiment dans ce qui était à peu près prévu. Bon, sur la matière d'innovation, je pense que la majorité des banques, alors je ne vais pas les citer, mais le connaissent, elles ont déjà des dispositifs pour soutenir l'innovation. On a en France aussi un dispositif jeune entreprise innovante qui marche franchement très bien. Là aussi, on parle maintenant de licorne, on n'en parlait pas. Enfin, je pense qu'il se passe quelque chose sur le marché français. On va aller plus loin. Je pense que dans le cadre du budget 2024, on aura là aussi un certain nombre d'innovations pour soutenir ces innovations. Jeu de mots involontaires.
On vous attend avec impatience alors sur ce terrain-là pour la rentrée. Julien.
Merci. Non, effectivement, le système bancaire, le système financier français finance plutôt bien les entreprises quand on ajoute les banques qui en prennent la plus grosse part, les marchés financiers qui apportent beaucoup, mais les marchés financiers peuvent être ouverts ou fermés. Et quand ils sont fermés, ben l'entreprise est bien contente de trouver des banquiers dans une relation plus bilatérale. Et puis enfin, l'industrie du capital investissement qui joue un rôle de plus en plus important là-dessus. Donc il faut les trois. Il n'en reste pas moins que pour les sujets d'innovation, et si on considère qu'on a effectivement une sorte de nouvelle révolution industrielle à faire devant nous, oui, les banques vont devoir voir différemment la question du risque. Différemment, ça ne veut pas dire financer n'importe quoi, mais différemment. Du point de vue du crédit ou du point de vue du financement d'acteurs qui investissent en capital. Et c'est compliqué parce qu'effectivement, une partie des innovations, on parlait des plans de transition tout à l'heure, certains sont définis, d'autres sont à inventer ou supposent des innovations qui ne sont pas encore là. Donc le sujet est absolument majeur. C'était vraiment un sujet, pour le coup, de collaboration positive publique-privée. Et au-delà de ce que vous avez cité, monsieur le député, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un très grand succès de la France dans ce domaine, qui est la BPI. BPI France et plus généralement la Caisse des dépôts, qui n'était pas une idée évidente, mais qui apporte vraiment énormément. Donc, continuons collectivement dans ce domaine. Mais là, oui, on ne peut pas dire que les banques aient atteint la perfection absolue en termes de financer les choses nouvelles dont on a besoin.
Parfait. Alors, je vais terminer parce que Jacques me fait signe qu'il faut qu'on tienne et on fera tout pour tenir notre timing. La relation donc entre les banques et l'État, ça a toujours été riche dans notre pays. Hein. Je voudrais rappeler quelques étapes. En 1936, Vincent Auriol, ministre des Finances, avait exprimé cette formule qu'on connaît tous. Les banques, je les ferme. Les banquiers, je les enferme. La gauche avait fait les nationalisations. Ensuite, on a connu les dénationalisations. Et puis, le sujet est un peu sorti, j'allais dire, de notre champ politique, parce que le sujet a été européanisé. Après, est-ce que, parce que c'est européanisé, c'est une vision totalement neutre des questions que l'on peut avoir sur la relation que les États peuvent avoir à la finance, enfin à la finance et en particulier aux banques, je n'en suis pas sûr. La neutralité de la vision que peuvent avoir Bruxelles et Francfort sur la banque, je m'interroge, mais enfin, j'ai une autre manière d'aborder la question. Et c'est la question que je vais vous poser à tous les deux et répondre brièvement pour esquisser peut-être ce débat que j'appelle démocratique et ouvert. Est-ce qu'on ne devrait pas faire émerger, par un dialogue assez vif peut-être, ce que c'est qu'une banque citoyenne ? Donc voilà, c'est un peu la question que j'avais à vous poser. Est-ce qu'on peut attendre que Bruxelles et Francfort arrivent à nous aider à savoir ce que c'est qu'une banque citoyenne ? Je commençais en disant, est-ce qu'on a les banques qu'on mérite ? Est-ce que la France pourrait avoir les banques citoyennes qu'elle devrait avoir ? Donc je ne sais pas qui est lequel de vous deux. On va commencer par Julien et comme ça on laissera la parole en dernier à monsieur le député.
Comme de juste. C'est un très bon débat et de toute façon, les banques ne survivront que si elles sont citoyennes, si elles sont utiles et notamment à leur territoire. Et ça, on ne peut qu'en convenir. Au-delà, sur le modèle et le fait qu'il ait été européanisé, ça a du bon, ça n'a pas que du bon. Ça aboutit à une certaine forme d'uniformité, de pensée unique, de modèle unique. Je passe, j'aime pas les anglicismes, mais ils parlent de single rule book et de choses comme ça. Or, la banque, comme tout écosystème, a besoin de diversité, de biodiversité. Avec, il faut des gros, des moyens, des petits. Et la vision de Bruxelles-Francfort est extrêmement pauvre, que c'est la consolidation.
Pauvre et appauvrissante.
Et très appauvrissante. Et tout le monde pareil. S'il y a une chose qui m'inquiète dans le secteur bancaire, c'est l'absence de nouveaux entrants. Vous avez des sortants, vous n'avez pas de nouveaux entrants. Mais il est extraordinairement compliqué, avec les superviseurs, d'obtenir un agrément, une licence bancaire. On a l'impression que moins il y en aura, mieux tout le monde se portera. Je n'y crois pas. On n'a pas le temps, là, de développer sur les fintechs. Les fintechs, on est dans une phase de destruction créatrice. Mais ça a été un énorme apport, parce que c'est de la nouveauté. Il y a besoin de ça. Donc je pense que, comme tout secteur économique, on a envie de nouveauté, besoin de diversité. Et ça sera peut-être une des manières de répondre à votre question.
Alors, monsieur le rapporteur général, est-ce que vous allez faire comme monsieur Lambert? Vous allez nous leur censer un beau rapport, une étude sur les banques citoyennes?
La réponse est non à ce stade, mais je prends la demande avec plaisir. Non, mais je vais réfléchir. Écoutez, sur le... L'Union bancaire a fêté l'année prochaine ses 10 ans. Nécessairement, elle a apporté une certaine uniformité.
Surtout au moment où elle a été créée. C'était
oui, mais vous voyez, moi, je suis un Européen convaincu. Et je pense que l'Europe nous a quand même, et on le voit encore sur cette crise en Ukraine, on le voit sur la crise du Covid, on est allé chercher des solutions européennes, sur la fiscalité minimale au niveau européen. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qu'on doit à l'Europe. Et je suis très inquiet. Et je peux comprendre aujourd'hui... On a envie de challenger l'Europe avec les effets que vous décrivez, vous avez décrit très, très rapidement. Mais ce sentiment se développe en France aujourd'hui, et je le regrette, si vous voulez, en tant que député. Et on voit bien, parce que le couple franco-allemand marche un peu moins bien, parce que beaucoup nous reprochent cette solidarité avec l'Ukraine qui a effectivement des conséquences sur leur quotidien. Enfin, on voit donc aujourd'hui des grains de sable se mettre. Les partis politiques qui communiquent sur l'Europe à la carte, si vous voulez, comme si chacun était capable de prendre tel ou tel truc. L'électricité aussi, ce qui s'est passé sur le prix de l'électricité avec des pays qui ne payaient pas tout à fait. On voit bien que cette remise en cause de l'Europe... Bon, moi, je crois qu'on aurait beaucoup plus à perdre collectivement si l'Europe ne tenait pas. Évidemment, je vous en parle de cataclysmes guerriers, mais il faut apprendre à vivre avec cette Europe. Il faut accepter cette idée qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va faire collectivement pour être plus fort, se battre pour nos spécificités, probablement. J'ai l'impression que les banques, 10 ans après, ont quand même gardé l'essentiel de leurs spécificités. Et je m'en réjouis. Donc oui à l'Europe, oui à ce qu'apporte l'Europe, mais tout en gardant évidemment nos spécificités.
Merci infiniment. Merci à vous deux. Et cher Jacques, je rends la parole.
Merci,
on voit
Jean-Louis.
Qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais qu'au moins, sur le sujet État et banque, on a quelques idées. Merci.
Merci Jean-Louis. Merci monsieur le rapporteur général. Merci Julien Carmona. J'ai beaucoup aimé cet entretien. Je retiens quelques idées vraiment clés, notamment celle de banque citoyenne, pourquoi pas. Et peut-être que l'on verra se dessiner au cours de nos prochains échanges des réponses aux questionnements quelque peu violents qui nous ont été posés au début par cette première conversation. Concernant, j'ai relevé aussi, Julien, une banque utile à son territoire et de la biodiversité. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je vais faire un tout petit peu de publicité. À la Fondation Concorde, nous avons produit un excellent rapport qui s'appelle « L'innovation bancaire au service de l'économie de territoire ». C'était publié l'année dernière. Les travaux que nous avons menés avec mon ami Christian de Boissieux et donc la commission banque et services financiers de la Fondation Concorde. Alors, troisième conversation, on va parler de technologie. On en a un peu parlé, mais pas beaucoup. En revanche, à l'aune de la souveraineté, puisque c'est un sujet quand je ne le vois pas, il est quelque part par là, quand nous avons lancé il y a 8 ans avec mon ami Vardar Menamou l'Institut de la souveraineté numérique. Et oui, Emmanuel, on s'est fait traiter de facho. D'ailleurs, non, c'est pas tout à fait ça. On s'est fait féliciter par le Rassemblement national de l'époque. Ils nous avaient envoyé un tweet pour nous dire que c'était super, enfin, de parler de souveraineté. Donc, mais les choses ont changé depuis et on place la souveraineté effectivement à sa juste place. Cloud et paiement, donc question numérique. Nouveaux enjeux de souveraineté pour les États européens. On va en parler avec Cyril Armange, donc directeur général adjoint de Finance Innovation, partenaire associé aux rencontres de la Plaine Monceau. Merci Cyril. Et puis avec Jean-Paul Mazoyer, qui est président de CB, directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, et Frédéric Dufaux, directeur général adjoint de DocaPost. Messieurs, c'est à vous.
Merci Jacques pour cette transition. Effectivement, on va aborder des sujets un peu plus techno. Mais avant de parler de tout ça, souveraineté, voilà un mot qu'on utilise tous les jours. Il y a une inflation. Il y avait le président Macron qui parlait pas plus tard qu'il y a quelques heures de souveraineté pharmaceutique, industrielle, alimentaire, énergétique. On voit bien que depuis le Covid, ce mot revient un peu à la mode, alors qu'il a en fait une cosmogonie un peu géopolitique, militaire. Aujourd'hui, Ma première question pour vous, en tant qu'acteur bancaire, la souveraineté, ça veut dire quoi? Comment vous l'incarnez? Comment vous intégrez ces enjeux? C'est quoi la souveraineté pour un groupe comme DocaPost, pour un groupe comme Crédit Agricole? Quelle est votre vision? Jean-Paul?
Bonsoir à toutes et à tous. J'ai ici plusieurs casquettes. Je suis banquier, je suis président de carte bancaire, donc un homme de paiement et un homme de technologie. Et donc votre question sur la souveraineté va toucher différents secteurs dont je m'occupe. En tant que banquier, je vous dirais que la souveraineté, elle n'est pas simplement industrielle, elle doit être aussi financière. On a évoqué ça évidemment dans la table ronde précédente. Je pense qu'aujourd'hui, la santé des banques françaises est un facteur très important pour la souveraineté. Cette souveraineté financière, elle doit également... On sait que les entreprises trouvent des financements aujourd'hui auprès des banques, mais on a peut-être une limite aujourd'hui, c'est le financement en capital développement. Moi, je suis toujours marqué de voir des licornes qui vont chercher leur financement après troisième ou quatrième tour de table aux États-Unis, parce qu'elles ne trouvent pas forcément ces montants-là en France. Donc on a un premier sujet autour de la souveraineté, je la définirais là, c'est la capacité que l'on a à financer notre économie et à financer la croissance de nos entreprises. Au niveau de la souveraineté sur la partie technologique, si on la définit en disant « je ne veux que des composants technologiques français ou européens », alors là, pardon de l'expression, on est mal barré. Parce qu'aujourd'hui, il est strictement impossible d'avoir une technologie exclusivement européenne, on en parlera très certainement, mais tous les fournisseurs de cloud, enfin les principaux fournisseurs de cloud, les principaux fournisseurs de logiciels, les principaux fournisseurs de composants électroniques ne sont pas européens. Et donc on est immédiatement confronté à ça. Donc il faudra la définir comme la capacité d'un choix pour les acteurs européens par rapport à ces fournisseurs étrangers, malheureusement. Et puis enfin, il y a la souveraineté dans le domaine des paiements. Là, c'est quelque chose qui nous tient évidemment à cœur, français que nous sommes, mais également européens. Je parlais un petit peu du groupement des cartes bancaires, créé il y a bientôt 40 ans, et qui est finalement un instrument incroyable de souveraineté française, puisqu'il permet qu'environ 80% des transactions cartes en France passent par des rails français. C'est un groupement qui a été créé par les grandes banques françaises, qui fonctionne remarquablement bien. On a essayé d'en faire un au niveau européen avec un scheme card. On parlera sans doute de pays. On n'a pas réussi. On va développer un autre outil de paiement à travers ce qu'on appelle les wallets de compte à compte, qui sera également un outil de souveraineté pour les Européens, permettant ainsi le paiement. On l'a bien vu avec le déclenchement de la guerre. Les Russes continuent à utiliser leur système interne pour faire du paiement, même si Visa et Mastercard ont coupé les flux financiers là-bas. Donc c'est un sujet que l'on a pour l'Europe, la capacité à accepter des paiements. Encore une fois, carte bancaire joue ce rôle en France. Et puis la souveraineté dans les paiements, c'est aussi se doter de champions européens, français si possible, dans le domaine des paiements. Là aussi, on pourra y revenir. Des associations entre des grandes banques et des fintechs me semblent une voie d'avenir. Pardon, me semble une voie d'avenir dans ce domaine.
Merci Jean-Paul. Alors moi, je n'ai qu'une seule casquette, directeur général adjoint de Capos, la filiale numérique du groupe La Poste, qui se positionne comme un tiers de confiance, un leader de confiance numérique, qui prolonge la mission historique du groupe La Poste dans le monde numérique pour le gouvernement et ses citoyens. Souveraineté, moi j'aime bien utiliser ou reformuler ce terme-là en termes peut-être un peu guerrier, qui est le terme d'autonomie stratégique. Et comme toute autonomie stratégique, si on parle un petit peu avec un langage militaire, elle se gradue en fonction du risque ou de la riposte à apporter à une attaque. Je vous laisse imaginer que ça s'est-il passé si Microsoft était russe aujourd'hui, si Amazon était russe aujourd'hui et que le gouvernement russe décide de couper certains canaux de communication. Voilà. Comment on serait stratégiquement bloqué. Après, je partage le point de vue de Jean-Paul, le tout numérique, tout français, tout européen est à peu près impossible à obtenir. On peut l'obtenir très ponctuellement sur certains composants ou certaines niches technologiques, mais par contre pas à grande échelle. Et c'est là où la réponse stratégique à un risque ou un enjeu stratégique doit être différenciée en fonction de ce que l'on veut protéger ou défendre. Et donc je pense que dans le domaine de l'autonomie stratégique ou de la souveraineté numérique, toute la graduation depuis les grands hyperscalers américains que sont Amazon, Google, etc., jusqu'à des niches comme celle qu'on a créée avec NewSpot en France, qui se veut être un champion du numérique souverain au sens SecNumCloud, tel que l'a défini l'ANSSI, avec les données sensibles que le gouvernement vient de préciser en termes de nature, est capable d'héberger avec tout le niveau de protection en termes de cybersécurité et d'indépendance technologique. Ça n'empêche pas que le fournisseur d'infrastructures de NewSpot, à Allscale pour ne pas le citer, a des data centers en Chine, parce qu'il a des besoins en Chine, et la Chine nous voit aussi comme un risque vu de son point de vue. Donc il faut tout pour faire un monde, et je pense qu'il n'y a pas de pensée unique dans ce domaine-là. C'est à nouveau en fonction de l'analyse du risque stratégique qu'il faut apporter une réponse graduée.
Merci à vous pour cette introduction un peu syntaxique. Du coup, donc, on a bien compris que paiement, cloud étaient un petit peu les totems justement de la souveraineté européenne, en tout cas une tentation de mettre en place ce concept. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un peu une chimère quelque part? Comment, sur ces questions de cloud souverain, cloud de confiance, comment ces éléments, et le paiement évidemment, comment on peut contribuer réellement à une souveraineté numérique européenne en fait?
Je prends le début de la réponse, Jean-Paul. Je pense qu'au travers, d'abord, il y a le débat précédent illustrait le rôle de l'Europe. Nous sommes des Européens, enfin, je suis un Européen convaincu et je pense que l'Europe a vraiment un rôle à jouer dans ce domaine-là en termes de réglementation. Et en termes d'encadrement des usages et des technologies. Donc l'Europe légifère actuellement sur différentes réglementations en termes, je peux citer le CESOP dans le domaine des paiements, je peux citer DORA dans le domaine de la sécurité des infrastructures numériques. Ça c'est le socle, c'est peut-être la pensée unique qui contraint parfois certains de nos clients, dont nos clients bancaires. Mais ça permet de créer un socle de confiance sur lequel tout le monde se comprend. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que le socle réglementaire, cette fois-ci au niveau de la profession bancaire, je laisserai Jean-Paul en parler, mais le fait de pouvoir tracer les paiements, de pouvoir les sécuriser, de pouvoir être sûr que son paiement va aboutir dans un sens comme dans l'autre, apparemment, au passage, vu du gouvernement aussi, sur tout ce qui est fraude à la TVA, ou blanchiment d'argent, donc là, tout ce qui est traçabilité de ces paiements. Je pense que là, le numérique apporte un plus, à nouveau, tout en protégeant la vie privée des personnes, mais sans aller non plus au-delà dans la fraude. Hein. Je crois que c'était hier ou c'était hier. Il me semble que c'est pas du vrai paiement, hein, mais l'ICA mobile s'est fait condamner pour du blanchiment d'action illégale, en tout cas, en utilisant ces fameuses cartes de téléphonie mobile. Donc ça, cette protection-là, enfin le numérique apporte la bonne traçabilité qui permet d'éviter des dérives dangereuses, terroristes, mafieuses, sur tout ce qui tourne autour du paiement, et au passage permet peut-être aussi d'un peu plus remplir les caisses de l'État en diminuant la fraude à la TVA, par exemple.
Sur le cloud, d'abord, pour répondre à la première partie de votre question, il y a des initiatives qui sont lancées pour arriver à bénéficier de cloud souverain sur des technologies, au départ, qui sont des technologies américaines. C'est-à-dire, pour éviter l'exterritorialité des lois américaines, le Cloud Act, on essaye de construire des entreprises qui sont avec des technologies américaines, mais qui sont licenciées dans des entreprises françaises ou européennes. Ces initiatives ont été annoncées il y a un an, deux ans, trois ans. On voit qu'il y a du mal à aujourd'hui aboutir. Elles ne sont pas opérationnelles pour l'instant. Et quand on est une grande banque comme le Crédit Agricole, on est confronté à l'impossibilité d'avoir des solutions exclusivement européennes en matière de cloud. Donc nous, on appelle de nos voeux, et on a travaillé avec les services de l'État sur ces sujets-là, on appelle de nos voeux d'avoir ces offres souveraines en matière de cloud, parce que, étant une entreprise qui est très engagée dans l'économie française, j'ai l'habitude de rappeler aux députés souvent que le Crédit Agricole, c'est le premier contributeur fiscal en France. Et à ce titre, au titre de notre impact dans l'économie française, nous, on a envie vraiment que de pouvoir aider à l'éclosion d'une filière numérique française, et notamment sur le cloud. Dans le système des paiements, encore une fois, le sujet, il est beaucoup plus de dire est-ce qu'on a des rails qui permettent aujourd'hui de traiter l'ensemble des opérations, et donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur le groupement carte bancaire. On essaye de le faire à un niveau européen, partant du principe que un des vecteurs de paiement de l'avenir, c'est le virement de compte à compte initié par un téléphone portable, donc les fameux wallets. C'est ce que l'on va faire avec le projet européen EPI, dont je vois Gilles Grapinet qui est là, Gilles et moi sommes administrateurs. Donc ça, avec une volonté véritablement de doter l'Europe d'une solution qui soit une solution souveraine. Et puis après, c'est l'éclosion également de solutions française en matière de technologie pour capter ces paiements. On sait qu'aujourd'hui, ce métier dit de l'acceptation des paiements en proximité est un métier qui est tiré par la technologie et qui est avec de nombreuses entreprises européennes, mais pas que. Il y a des grands acteurs européens qui viennent jouer sur ce terrain-là. Là aussi, on a des champions français. Je reprends l'exemple de Worldline, évidemment. On a des champions européens. Il y en a d'autres. Il y a Nexi en Italie, il y a Adyen aux Pays-Bas. Et on essaye de favoriser aussi ces entreprises-là pour créer véritablement cette filière européenne dans les paiements.
Très clair. Merci, Jean-Paul. Non, on a compris qu'effectivement, le monde bancaire, le monde de la banque était face à plusieurs défis. On a abordé le climat. Jean-Paul, vous venez d'aborder celle du paiement. Frédéric, celle du cloud. Donc aujourd'hui, on comprend bien que la banque est au cœur de plusieurs transitions, qu'elles soient numériques, environnementales, sociétales. Mais au regard des enjeux organisationnels, réglementaires, techniques, comment se projettera la banque de demain ? Au regard de toutes ces problématiques qu'on va aborder et qu'on aborde durant ce colloque, du coup.
Moi, je suis convaincu, comme Julien, que si la banque n'est pas utile, elle ne trouvera plus sa place. Et cette utilité, elle est auprès de l'économie, auprès de la croissance des entreprises et auprès des territoires. Je suis également un banquier de terrain, et je considère que notre rôle est véritablement de dire comment est-ce qu'on aide les territoires de France à se développer et à grandir. Et puis évidemment les entreprises dans l'accompagnement, tous les acteurs économiques de façon générale. Je pense que le modèle français qui a été abordé tout à l'heure dans la table ronde est particulièrement important à défendre. Aujourd'hui, il est attaqué de toutes parts. Le modèle français, c'est quoi ? C'est la banque universelle où on considère que parce qu'on a une vision globale du client, on a la capacité de bien le conseiller. Mais ce modèle, il est attaqué de toutes parts, et notamment par l'Union européenne, qui dit non, moi je vais vous interdire, si vous faites le crédit habitat, de faire l'assurance du crédit habitat. parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas autonome dans votre capacité à décider. Et ça, c'est une erreur monumentale. Si on n'a pas l'ensemble des produits à offrir aux clients, on ne peut pas avoir une vision complète et une capacité à le conseiller globalement. Donc on a une défense de ce modèle à avoir à un niveau français, européen, à bien comprendre ce qu'est cette banque universelle. Je crois que ça, c'est particulièrement important. Puis après, il y a un modèle à inventer aussi avec l'arrivée du digital dans un monde, évidemment, qui est où on doit travailler davantage sur notre trace carbone, où on sent que la place du digital, c'est pas de remplacer l'humain, c'est pas avoir un monde qui est plus digital, qui est moins humain, c'est au contraire un monde qui est plus humain grâce au digital et où on est capable de marier les deux. On sait que nos clients veulent à la fois de la commodité digitale, mais de l'accompagnement humain. Donc c'est ça que doit réinventer la banque demain. C'est cette cap, comme dans beaucoup d'industries d'ailleurs. C'est comment je rends le monde plus humain grâce au digital, comment j'arrive à imbriquer les deux pour arriver à avoir une solution qui est une solution à plus forte valeur ajoutée.
Alors, quitte à limiter le débat contradictoire, je suis parfaitement lié avec ce que vient de dire Jean-Paul. Et en tant que fournisseur des cinq plus grandes banques françaises, si j'essaie de faire une synthèse, même si les implémentations sont différentes d'une banque à l'autre, de ce que peut être la banque de demain, c'est d'abord une banque qui sera éthique et responsable, au sens tel que reformulé, parce que c'est une demande du marché. Et aujourd'hui, on voit bien que toutes les grandes banques ont lancé des programmes dans ce domaine-là à divers degrés, sur l'ensemble de leur spectre de clientèle, que ce soit dans le domaine du citoyen ou de l'entreprise. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est une banque qui mixera à la fois la proximité physique et la proximité digitale, avec, je dirais, une capacité, un peu comme les métavers nous le promettent, de pouvoir rentrer dans un univers et en sortir et pouvoir échanger au niveau de cette interface humaine et digitale. Qui dit digital dit sécurité. Et là, on rejoint la question de souveraineté. Est-ce que mes données sont bien en France ou est-ce que j'en laisse l'usage à d'autres? Est-ce que toutes les données se valent? Est-ce que j'ai envie que mes données de santé soient quelque part aux États-Unis, utilisées à des fins de recherche pour la recherche américaine? Bon, si c'est mon compte en banque, après tout, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Mais voilà, enfin, c'est des vraies questions qui se posent. Et c'est là où il y a une réponse graduée à faire. Et puis finalement, une question de cybersécurité aussi. Est-ce que quand je me connecte à ma banque, c'est bien moi qui me connecte et pas quelqu'un qui essaie d'usurper mon identité? Donc toutes les questions liées à l'identité numérique, et on rejoint les questions de wallet européen, et à nouveau le chapeau européen qui va offrir un cadre réglementaire est particulièrement important. Après, à chaque banque de décider de l'implémenter d'une manière différente, à son rythme et en fonction de sa stratégie de différenciation par rapport à d'autres.
Très clair, merci. Donc, on a compris effectivement qu'il y avait un mix aujourd'hui entre le digital et l'humain, mais est-ce que le modèle bancaire français, Jean-Louis parlait de banque citoyenne, de la nécessité de mettre en exergue le niveau local, le territoire, mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, pour le citoyen lambda, comment la banque peut aujourd'hui participer à la compréhension justement des enjeux que vous venez présenter? Comment elle peut être un relais entre cette dématérialisation de nos vies, hein, qu'on vit aujourd'hui avec tout ce qui est l'IA, ChatGPT, parler de métaverse et tout? Comment la banque peut quand même avoir ce rapport un peu quelque part tellurique avec son client?
Une très grande partie du système bancaire français a été créée par les mouvements mutualistes. Les gens ne comprennent pas toujours ce qu'est le mouvement mutualiste, mais c'est finalement la non-redistribution des résultats, la mise en réserve. Quand on est patron d'une banque mutualiste, on met 90% minimum de son résultat annuel en réserve et le système croît comme ça depuis des dizaines d'années, des siècles, mais un siècle et demi pour nos entreprises. Si le résultat, vous le mettez en réserve, c'est que le résultat n'est pas la finalité. Donc la finalité est à trouver ailleurs. Et quand on est banquier d'un territoire, je partageais le même territoire avec le député il y a encore assez peu de temps, tout simplement, c'est le développement du territoire qui est votre finalité. En tant que banquier, vous avez un rôle qui est un rôle sociétal, véritablement de participer au développement du territoire, faire grandir les entreprises, aider les acteurs économiques à trouver du financement et faire en sorte que les territoires comme ça se développent. Quand vous faites ça, je vais vous donner quelque chose qui va paraître presque une tautologie. Mais quand vous prenez les entreprises bancaires territoriales en France, elles sont nombreuses. Je suis un groupe, Julien est dans un autre groupe. Vous avez une particularité, c'est que les clients et les actionnaires, qui sont souvent les mêmes, les salariés, les dirigeants, vivent sur le même territoire depuis des générations. Ça vous paraît évident, mais je vous assure qu'il y a très peu d'entreprises qui sont comme ça. Il y a des entreprises dont les dirigeants, les salariés, les actionnaires peuvent être du même territoire, des entreprises familiales, les clients sont ailleurs. Vous avez des entreprises qui sont évidemment, qu'elles sont cotées en bourse avec des actionnaires qui sont différents. Quand vous avez l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise qui sont sur le même territoire et depuis des générations, ça vous donne une responsabilité et un sens, une raison d'agir, au-delà d'une raison d'être, une raison d'agir. Et ça, c'est quelque chose qui imprègne profondément les banques françaises, les banques mutualistes françaises, parce qu'elles ont cette responsabilité. Je pense qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui de penser l'avenir de ces banques si on ne prend pas en compte cette dimension. Et les Français ne s'y trompent pas. Quand vous avez des assemblées générales de caisses locales, comme on en a tous les deux, vous êtes en permanence confrontés à des Français qui vivent sur ces territoires et qui cherchent auprès de nos établissements un véritable soutien dans l'accompagnement de leur vie, que ce soit dans les moments agréables, dans les projets d'avenir, comme dans les moments plus difficiles.
Frédéric, pour conclure.
À nouveau, pour compléter la réponse de Jean-Paul et en essayant de faire à nouveau une synthèse de ce que nous voyons sur le marché français et dans une moindre mesure sur le marché européen, ça passe par l'ancrage dans le territoire. Quand je dis ancrage, c'est au sens, je pose mes pieds, je suis dans le terrain, je suis sur le terrain, et avec une réglementation aussi qui aide à cet ancrage, qui est tout ce qui va tourner autour de la connaissance client, le fameux KYC, que ce soit pour un particulier ou pour une entreprise, et qui est un mix à la fois de données collectées de manière sécurisée et stockées de manière sécurisée sur le long terme, capitalisées par la banque, et cette connaissance de la discussion, du dialogue au-dessus du guichet. Alors, il y a de moins en moins de guichets. Maintenant, c'est des banques qui sont plus, beaucoup plus ouvertes. Mais cette capacité à nouveau à faire du physique, du numérique, à capitaliser sur cette connaissance client dans la durée pour mieux servir le client, pour mieux aussi le protéger éventuellement des risques qu'il voudrait peut-être un peu trop prendre ou au contraire le pousser dans la bonne direction.
Très bien, merci. Je crois qu'on a été très efficace, très synthétique. Merci à vous pour ce partage de vision.
Merci.
Merci.